d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, l'Union européenne en plein chantier pour réformer son agriculture. Les discussions ont lieu en ce moment. Voilà plusieurs mois que les différentes institutions travaillent à une réforme de la fameuse politique agricole commune, la PAC. Ce programme, qui doit encore être adopté par les chefs d'État européens, se veut plus respectueux de la nature. L'objectif, c'est celui d'être neutre climatiquement d'ici 30 ans, en 2050. Et ce, avec toute une série d'initiatives rassemblées dans le Pacte Vert, le Green Deal. Jérémy Audouard, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. L'une des mesures phares de ce Green Deal, c'est celle de mettre en place des éco-régimes en agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les éco-régimes, ce sont des mesures inédites qui devraient faire partie de la nouvelle PAC. Il s'agit d'aides supplémentaires attribuées en quelque sorte aux agriculteurs qui font des efforts en matière environnementale. Par exemple, ceux qui se tournent vers le bio, ceux qui augmentent les jachères ou encore les exploitations qui misent sur l'agriculture de précision, en bref, tous ceux qui contribuent à améliorer la biodiversité de manière volontaire recevront des primes. À côté de ça, il y aura aussi des obligations. Par exemple, les agriculteurs devront diversifier leurs cultures ou encore maintenir des prairies permanentes. Donc, dans ces objectifs, la prochaine PAC intègre une dimension environnementale plus importante. Les détails précis sont encore en cours de discussion.
Mais pour plusieurs ONG qui défendent l'environnement ou encore les députés écologistes européens, on reste loin du compte.
Oui, pour certains militants, c'est encore insuffisant car au final, l'Europe garderait le même modèle d'agriculture intensif. Avec cette réforme, ce sont toujours les plus grosses exploitations qui recevraient le plus d'argent, les mêmes qui contribuent à détruire les sols et nuisent à la biodiversité. La Commission européenne reconnaît qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais elle souligne qu'il y a aussi du progrès. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole ont baissé de 20% ces 30 dernières années. C'est notamment parce qu'on utilise moins d'engrais. Cette prochaine réforme agricole aura donc des reflets verts, mais ce ne sera pas le grand changement que certains espèrent. La nouvelle PAC entrera en vigueur en janvier 2023.
Merci Jérémy Audouard, à bientôt. L'Italie, elle, n'a pas attendu le pacte vert pour se lancer. Voilà plusieurs années qu'elle est passée au bio. La péninsule est même devenue le premier pays exportateur européen de produits agroalimentaires bio. Dans le monde, l'Italie se situe ainsi juste derrière les États-Unis, avec 2 millions d'hectares, soit 15,5% des terres cultivées qui le sont en bio. De quoi susciter des vocations. Dans le nord du pays, en Lombardie, Frédéric Lebel a rencontré un jeune boulanger qui a choisi de se reconvertir et de faire pousser des légumes bio sur les terrains escarpés de la montagne du Val Seriana. Reportage.
Regardez autour de vous. C'est un endroit magnifique. Et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour lancer une exploitation.
Comme un écran entouré de montagnes, le terrain en terrasse est délimité par la forêt. Rien ne vient perturber la sérénité de la lumière d'automne. On accède à l'exploitation de Mauro Ferrari par un petit chemin de terre. Voilà tout juste 6 mois que cet ancien boulanger de 40 ans a racheté les terres familiales de Castione della Prezzolana à une quarantaine de kilomètres au nord de Bergame.
Moi, j'ai toujours été boulanger, mais mener de front ce métier et la culture de la terre ici, ça devenait impossible. Et puis dans ma famille, on a toujours été végétarien. Donc on peut dire qu'il y avait vraiment un terrain favorable. Et c'est ça qui m'a convaincu de me lancer.
Abbiamo deciso questa scelta. È un sistema di ventilazione che ci permette di aerare l'interno del tunnel.
Au pied des serres qui fonctionnent avec une ventilation mécanique où poussent tomates, épinards et légumineuses, Catello Vitaglione, ingénieur agronome du plus grand syndicat agricole Coldiretti, est venu apporter son expertise pour ce programme de conversion bio, un projet qui a rapproché les deux hommes.
J'ai connu Mauro au début de l'année et j'ai tout de suite été enthousiasmé par sa volonté et la passion qu'il met dans son métier. Il travaille vraiment comme un artisan. Sa petite activité nécessite de grands sacrifices. sacrifice. Et dans son cas, comme il est végétarien, il a une vraie exigence avec l'alimentation. Et si tu as cet amour-là, alors tu peux produire de la qualité en étant autosuffisant.
Parce que ces terres n'ont jamais reçu ni fertilisants, ni pesticides chimiques, le processus de transition au bio ne durera qu'un an. Mauro Ferrari nous fait grimper un peu plus haut vers les champs en terrasse pour lesquels il a fallu développer tout un système d'irrigation. Les choux de Bruxelles, nichés dans leur large feuillage, sont à maturité.
Tu entends comme c'est croquant ? Ici, vous voyez, il y a des petites buttes. Alors, aucun tracteur ne peut passer, évidemment. Je fais tout à la main. Je fais pousser des légumineuses et vous voyez à travers la toile les plantes qui les entourent, ce sont des antiparasites. Et puis là, j'ai semé des carottes en biodynamie et j'ai planté aussi du trèfle pour fertiliser la terre. Et là, c'est vraiment de la biodynamie parfaite.
Mauro Ferrari travaille seul et grâce à la vente directe auprès des 3500 locaux ou des touristes, s'ils reviennent, il parvient à dégager le salaire d'un ouvrier qualifié, nous explique-t-il pudiquement, sans vouloir préciser combien.
En fait, moi je ne compte pas mes heures. Dans le métier que je fais, on est au champ du lever au coucher du soleil. On va dire qu'en ce moment, c'est plutôt 10 à 12 heures par jour. Mais l'été, ça peut monter à 14-15 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui fait son métier avec passion, il veut plutôt des journées de 48 heures que de 24.
Encore un peu plus haut, deux ânes passent dans un paysage de cartes postales.
Regardez un peu ce pré, regardez-moi cette biodiversité, le nombre de plantes qu'on peut observer ici. Par rapport à un champ qui serait cultivé mécaniquement, on trouve deux à trois fois plus de variétés de plantes. Là, on a du terreau complètement naturel, composé à 70% de crottins d'âne. Je l'ai recouvert d'une bâche pendant 4 ou 5 mois. Ça ne sent pas mauvais. La terre est riche et c'est de la super qualité.
Enfin, au sommet de l'exploitation, le poulailler, encore de petite taille, rien ne se perd, tout se transforme.
C'est tout un cycle, c'est vraiment une économie circulaire, en circuit fermé. Et ça nous permet d'observer très précisément ce dont on a besoin. Par exemple, les ânes, qui sont des animaux non ruminants, taillent l'herbe et on peut récupérer leur fumier. Et les poules que je voudrais introduire sur l'exploitation, elles vont disséminer les graines qu'on leur donne à manger. Et puis moi, j'arrive ensuite, avec mon travail, pour améliorer les rendements.
Méthodiquement, grâce à l'observation de la nature, à ses lectures, à des formations continues aussi, Mauro Ferrari a acquis une expertise qui impressionne l'ingénieur qui était venu pour le conseiller.
Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Mauro. Tout d'abord, la passion, la curiosité d'un jeune homme qui a toujours des idées stimulantes pour se développer, pour mettre en valeur cette terre dans cette zone de montagne qui n'est pas facile. Et puis aussi la simplicité d'un homme qui veut nourrir sa famille et ses proches, vivre sainement et cultiver sainement. C'est tout un engagement, un mode de pensée que je trouve très vertueux. Ça a été pour moi un vrai enseignement.
Dans un futur proche, Mauro Ferrari compte développer la culture des cassis, des groseilles et des mûres, des baies qui seraient protégées de la grêle par de nouvelles rangées d'arbres qui les protégeraient aussi du soleil en été.
La nouvelle PAC, c'est aussi la fin probable de certaines aides. Exemple en Espagne, où l'heure de l'estocade finale pour le monde de la corrida a peut-être sonné. Le 21 octobre dernier, les députés européens ont voté un amendement pour supprimer les aides de la politique agricole commune versées aux éleveurs de taureaux. Il s'agit de 130 millions d'euros. Selon les députés écologistes qui défendent l'abolition de la corrida, cette aide est d'autant plus choquante qu'elle n'est destinée qu'à trois pays de l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal et la France, alors que pour les 24 autres pays membres de l'UE, la tauromachie est tout simplement illégale. Les explications de Diane Cambon.
L'Espagne, où cette tradition est la plus répandue, a largement bénéficié de cette subvention au cours des 20 dernières années. Le quotidien El País parle de quelque 430 millions d'euros versés à près de 600 élevages taurins. Pour les éleveurs, ces subventions sont fondamentales car elles permettent de conserver une race bovine, le Toro de Lidia, le taureau de combat, qui n'existerait plus si les corridas disparaissaient. Surtout, elles permettent de compenser les recettes chaque fois moins généreuses obtenues lors des corridas. La tauromachie attire de moins en moins de spectateurs et les arènes seraient à moitié vides sans les touristes étrangers. La télévision publique espagnole ne verse plus aucun droit télévisuel depuis plus de 10 ans, lorsqu'elle a cessé de diffuser en pleine journée et en direct les corridas, considérés comme un spectacle trop violent. Enfin, la crise sanitaire liée au Covid a définitivement plombé cette année noire avec la suppression de la majorité des corridas. Toutefois, les défenseurs de l'abolition de la tauromachie se gardent bien de crier victoire trop vite. En 2015, un amendement du même genre avait été finalement rejeté, car c'est le Conseil de l'Union européenne qui aura le dernier mot. Et là, la France, le Portugal et l'Espagne pourraient bien faire blocage une fois de plus.
Et en Angleterre, comme en France et en Espagne, le confinement s'assouplit enfin. Au Royaume-Uni, les magasins non essentiels, les salles de sport et les coiffeurs pourront ainsi rouvrir dès mercredi prochain. Mais en attendant, la capitale est toujours quasi déserte avec les pubs et les restaurants fermés. Les fameux black cabs, ces taxis noirs et bombés de Londres n'ont plus de clients et paient un lourd tribut à l'arrêt de l'économie. Marie Billon.
Paolo enjambe les herbes folles et se faufile difficilement entre les taxis noirs. Ils sont garés si serrés les uns contre les autres dans ce champ loué à un fermier qu'il a du mal à avancer.
Ils sont presque empilés les uns sur les autres et la nature reprend ses droits avec les mauvaises herbes qui poussent le long des châssis. C'est ce qu'on appelle désormais un cimetière de taxis. Il y a un peu plus de 200 véhicules entassés ici. C'est presque toute notre flotte. On doit juste avoir 40 à 50 taxis toujours en circulation.
Probably around 40 to 50 that are still out with drivers.
Certains ont le nez du capot qui touche presque l'aile d'un autre. Les garer ici, sans les abîmer, mais en maximisant l'espace, a été un travail minutieux. Car depuis le mois de mars, ils sont de plus en plus nombreux ici. Ici, c'est Epping, dans la banlieue nord de Londres. La compagnie de Paolo, GB Taxis, loue des taxis aux chauffeurs qui n'ont pas les moyens ou l'envie d'acheter leur propre véhicule. Les contrats sont à la semaine, alors dès le premier confinement, beaucoup lui ont tendu les clés.
On a commencé à recevoir plein d'appels de clients qui voulaient nous rendre les taxis parce qu'ils ne gagnaient plus assez pour payer la location. Ils ont pu avoir les aides financières accordées aux auto-entrepreneurs sans travailler. Donc, on a pu récupérer les voitures et les garer quelque part. On a aussi été obligé de les mettre hors circulation pour éviter de payer les assurances et les vignettes automobiles et limiter nos sorties d'argent pour survivre jusqu'à la fin de la pandémie.
GB Taxis n'a pas reçu d'aide du gouvernement, dit Paolo, car les taxis ont le droit de rouler. C'est juste qu'il n'y a pas de clients dans les rues. Avec la levée du second confinement, Paolo espère que les affaires reprendront. Mais remettre tous ces taxis en état de marche ne sera pas aussi simple. Les mauvaises herbes ont fait leur œuvre, tout comme la rouille. Enfin, plusieurs vitres ont été cassées. Des filtres à particules de diesel ont été volés. Mais son entreprise pourra s'en sortir, veut croire Paolo, même si rien ne sera plus comme avant.
There's not going to be as many drivers coming back.
On ne va pas retrouver tous les chauffeurs d'avant la pandémie. Beaucoup ont décidé de changer de métier. Certains sont devenus livreurs pour les supermarchés, par exemple. Ils ont rendu leur taxi en disant qu'ils quittaient la profession.
Changer de métier, c'est aussi ce que Rob pense à faire. C'est au volant de son taxi qu'il nous parle. Lui est propriétaire de son véhicule. Il est chauffeur de black cab depuis 5 ans. C'était déjà un changement de carrière, mais il est prêt à bifurquer à nouveau.
Je suis en train d'apprendre comment générer du trafic sur un site internet. Je veux travailler en ligne parce que c'est la seule chose qui continue même pendant les confinements. Si je peux gagner ma vie autrement, c'est mieux parce que 2020 aura été une année de perte. Je ne peux pas survivre comme ça.
Rob ne gagne plus que 40% environ de ce qu'il gagnait avant la pandémie. Avec ses économies, il a acheté 3 taxis à des chauffeurs qui ont décidé de prendre leur retraite pendant le confinement. Il les remet à neuf et compte les vendre à des entreprises ou des agences de publicité qui se servent de la forme bien connue du black cab pour diffuser leurs réclames dans les rues. Il a abandonné l'idée de les vendre à d'autres aspirants chauffeurs. Le métier est devenu vraiment trop difficile.
Ces dernières semaines, quand j'allais travailler dans le centre, j'ai plus dépensé en essence que ce que j'ai gagné. Il n'y avait personne dans les rues. C'était désert, complètement désert. J'ai conduit partout. Je ne savais pas où il y aurait des clients, donc j'ai tout essayé. Je suis aussi resté 3 heures dans une station de taxi et j'ai juste une course de 7 livres. Ce n'est pas qu'il y a peu de travail, c'est qu'il n'y a quasiment rien.
Dans la rue où vit Rob, dans la ville de Romford, près d'Epping, au nord de Londres, on peut voir de nombreux taxis garés devant les maisons, à l'arrêt. Si les touristes ne peuvent pas revenir rapidement, puisque ce sont eux qui préfèrent en majorité les fameux black cabs aux entreprises de VTC, Rob craint que le bon vieux taxi londonien ne devienne l'une des victimes collatérales de la pandémie. Just try it. Play the record over again
right now. Et comme tous les lundis, désormais, on vous emmène en musique visiter un petit coin d'Europe avec vous, Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on embarque visiblement pour un voyage dans le temps, Vincent.
Je vous propose aujourd'hui de prendre le train, de monter à bord du Trans-Europe Express, imaginé en 1977 par le groupe allemand Kraftwerk. Une chanson qui donne son nom à un album traversé par l'idée d'une identité européenne sans frontières. Alors ce train, il semble guidé par une rythmique métronomique et filé inexorablement vers l'Est. Après être parti de Paris au petit matin, rendez-vous sur les Champs-Élysées, avant de passer par Vienne, où l'on se pose dans un café ouvert tard la nuit, puis de repartir direction Düsseldorf pour y croiser Iggy Pop ou David Bowie. Attention au départ.
C'était Trans-Europe Express de Kraftwerk sur RFI. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Pour nous retrouver à toute heure et partout, rendez-vous sur RFI.fr à la rubrique podcast ou sur votre plateforme d'écoute. À demain.
In Vienna, we sit in a late night café. straight connection. TE.